Bon bah, bienvenue ce matin à notre journée d'études sur les échanges franco-américains dans la mode. On est ravis de vous avoir et de vous garder pour la journée ou peut-être juste pour la matinée. Et surtout, on voulait remercier le GIS à Corso qui nous a mécéné ce matin, cet après-midi pour les pauses. Et je voulais aussi vous présenter donc le projet du GIS, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, donc c'est le groupement d'intérêt scientifique Apparence, Corps et Société. Et c'est un groupement de musées et de centres de recherche de partout en Europe, de chercheurs et de conservateurs qui travaillent donc sur les vêtements, les corps et les apparences. Et ce qui se passe donc, c'est qu'on se réunit plusieurs fois par an et on travaille ensemble pour créer des journées de recherche et des séminaires sur des sujets communs entre chercheurs et conservateurs partout en Europe. Et donc ici c'est le blog du GIS et vous avez donc les activités, les appels à contribution des partenaires, des expositions, les manifestations scientifiques, les projets en cours, les publications et les thèses. Et je tiens donc pour les étudiants qui sont ici, si vous êtes en train de travailler sur des projets de recherche en histoire de la mode ou apparence, remontez-nous les informations et on publie volontiers vos projets sur le blog. Donc merci beaucoup au GIS pour le soutien pour cette journée.
Qui va aborder des aspects assez différents. Et donc, on a choisi un point particulier pour aborder cette journée de recherche, donc, qui s'intitule « Échange franco-américain dans la mode ». On voulait partir du défilé de 1973, intitulé « La bataille de Versailles », qui est un défilé de mode essentiel, très important dans l'histoire de la mode, et qui inscrit surtout une rupture dans l'histoire croisée de la mode française et de la mode américaine. Alors ce défilé a lieu au château de Versailles en 1973. 5 créateurs américains sont invités à venir présenter leur collection au château de Versailles, dont Oscar de la Renta, Alston et Bill Blass, contre Yves Saint-Laurent, le contre est vraiment choisi à dessein, contre Yves Saint-Laurent, Pierre Cardin, Hubert de Givenchy et Emmanuel Ungaro. L'idée, c'est de... Le défilé s'appelle Battle of Versailles et l'idée, c'est vraiment de confronter deux modes, la mode française, la mode américaine. Alors Robin Givhan, je crois qu'on dit Robin Givhan, a écrit un livre dessus, si ça vous intéresse, qui retrace l'histoire de ce défilé. Alors, quelques images avant de vous donner pourquoi on a choisi de partir sur ce défilé. Donc, un défilé qui a lieu au château de Versailles et qui va voir se confronter l'espace de quelques heures, deux manières de voir la mode, deux manières de concevoir la mode. D'un côté, on a les défilés des Français, le défilé des Français qui déambule sur de la musique classique d'une manière très traditionnelle, qui vont montrer des modèles de haute couture dans la tradition française. Et de l'autre côté, on a des mannequins américains qui vont marcher librement sur de la musique célèbre, pas du tout de la musique classique. On a pas du musique orchestrale non plus, c'est de la musique qui a été enregistrée. Ils vont avoir des démarches particulières, ils vont être beaucoup plus libres dans leurs démarches que les créateurs français. Et ils veulent par là exprimer une certaine modernité, même si le terme toujours prend entre guillemets, une certaine nouvelle manière de concevoir la mode, de concevoir la présentation de la mode, et qui marque l'entrée dans les années 70 avec toute l'évolution qu'on connaît dans la mode. On a aussi le point particulier qu'il y avait plusieurs mannequins noirs, ce qui ne se faisait pas. Quand on sait qu'Edmond Charleroi a été exclu de Vogue français en 66 parce qu'elle avait proposé mettre une mannequin noire en couverture. Donc on a des mannequins dont Bethan Hardison, Pat Cleveland, Billy Blair, et surtout ce sont des modèles de prêt-à-porter. Donc on a d'un côté un spectacle très divertissant, très jeune, très, très désinvolte, et du côté français, on a quelque chose de beaucoup plus classique. On a des couturiers qui vont défendre leur savoir-faire parisien, leur savoir-faire ancien, et qui vont dans la tradition française de la haute couture. Alors ce défilé, en fait, il voit la victoire des Américains, pour la presse et pour ceux qui ont analysé, parce qu'en fait, ils vont prendre conscience de leur potentiel de leur potentiel dans la mode. Et Robin Givhan parle de psychic boot, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment réaliser qu'ils peuvent concurrencer la France, qu'ils peuvent faire quelque chose de différent, mais de bien. C'est pas forcément différent et moins bien, ça va être différent et bien. Et cette prise de conscience est vraiment importante pour l'histoire de la mode en général, l'histoire de la mode américaine en particulier, mais aussi pour l'histoire croisée franco-américaine de la mode. Désormais, on va revenir un peu après, est important. La France doit prendre conscience que l'Amérique existe, que la création de mode existe, et qu'il faut... On ne peut pas faire abstraction de la création proprement américaine. Donc cette histoire bilatérale franco-américaine, cette lutte, cette bataille, elle n'est pas nouvelle en 1973. C'est ce qu'on voudrait examiner aujourd'hui. C'est que si 1973 est un tournant et une rupture, ce tournant en fait, a des racines beaucoup plus anciennes. Alors avant de vous dresser un portrait très rapide des points qu'on va aborder aujourd'hui et des racines de ce tournant, quelques images plus précises du défilé, dont je vous ai parlé un peu en détail. Donc vous voyez une ambiance qui est aussi très spectacle, très divertissante, entertaining, à l'américaine. Des poses, une manière d'être. Beaucoup de mouvements, beaucoup de légèreté dans ces photos. Donc on n'a pas trouvé de film malheureusement, on n'a que des photographies de ce défilé. Une seule photo en couleur. Alors, donc comme on vous disait, vous montrez que cette histoire de la concurrence américaine, elle est loin d'être nouvelle en 1973. On remonte au XXe siècle. On a choisi de faire le XXe siècle. On pourrait remonter sans doute au XIXe, mais on remonte au XXe siècle pour vous montrer les racines de cette concurrence de cette lutte, de cette bataille. Déjà, la Première Guerre mondiale inscrit une rupture. On parle de la crainte française de voir se développer une mode proprement américaine. Alors, la mode américaine ne réussit pas encore à mobiliser ses propres créateurs dans un projet d'une création américaine indépendante. Mais déjà, on a plusieurs titres de presse qui, dès 1914 et août 14, vont entrer en croisade dans ce sens. Le Ladies Home Journal, dès 1909, incite l'industrie américaine à mobiliser des moyens pour se libérer de Paris et imposer un style qui lui est propre. On a aussi bien sûr le New York Times, et ça vous retrouvez dans les archives du New York Times. Le journal suggère aux Américains qu'il est temps de prendre son envol. Donc on voit vraiment que ce sont des types de journaux qui sont importants et qui sont connus en France et qui alertent un peu les couturiers. La Gazette du Bon Ton, que vous connaissez, qui publie un numéro spécial pendant la guerre, ce numéro spécial met vraiment en avant qu'il faut faire attention aux dangers américains. Et ce numéro est publié à l'occasion de l'exposition de San Francisco de 1915. Et l'éditeur Vogel explique dans son éditorial « À San Francisco, les couturiers parisiens manifestent ainsi auprès de leurs amis outre-Atlantique, et notamment journalistes et couturiers américains, souvent détracteurs de la mode française, qui ne rêvaient que de son déclin, la persistance du bon goût parisien ». Alors 1914, c'est une date importante. Les craintes françaises se révèlent infondées parce que la couture parisienne reprend relativement vite. Mais on a déjà ce moment, ce shift important à noter. D'un autre côté, on a aussi par exemple le voyage de Poiret en 1916 qui part aux États-Unis créer une succursale pour proposer des vêtements adaptés à la cliente américaine. Donc on a aussi ce mouvement, même si les craintes sont infondées, on a quand même une prise de conscience de la part des couturiers qui vont voir ce qui se passe de l'autre côté et qui vont essayer de s'adapter aux demandes des clientes américaines. Donc cette question de la Première Guerre mondiale. Pendant l'entre-deux-guerres, cette concurrence, cette question prend un peu d'ampleur, étant donné que si la haute couture reste puissante, elle reste la pourvoyeuse de style et de mode, on a une prise de conscience du côté américain. Et on a notamment le rôle des femmes, Claire McCardell, Elizabeth Hawes, Bonnie Cashin, Clare Potter et Muriel King, qui pour la première fois s'imposent comme des créatrices de mode, qui créent des modèles uniques, et qui vont en des modèles qui s'éloignent de la simple imitation de modèles parisiens. Donc c'est aussi très rapide ce que je vous dis, il faudrait voir donc une référence au livre, si vous voulez, sur la New York Fashion, The Evolution of the American Style, pour montrer qu'elles vont s'imposer, elles vont se revendiquer comme femmes qui créent leur propre mode, et on voit que c'est souvent du vêtement en série et du vêtement de sport, le sportswear dont on parle si souvent. On voulait aussi aborder la question du cinéma, ça serait une communication de cet après-midi, le rôle d'Hollywood dans cette américanisation, c'est un terme, on va y revenir juste après. Quel est le rôle d'Hollywood sur la mode? On sait qu'il y a une influence, mais quelle influence? Est-ce que ça concerne que, quel rôle jouent les stars dans ce, est-ce que c'est le relais, l'influence entre Hollywood et Paris? De quelle teneur est l'influence américaine sur la mode française? Et on a aussi le rôle du sportswear. Alors, on aurait dû avoir une communication dessus, malheureusement, on n'a pas pu la voir, mais ce rôle du sportswear, de quand il date, est-ce qu'on peut parler d'une influence totalement américaine, ou est-ce qu'il faut être un petit peu plus nuancé? Donc le cinéma et le sportswear, c'est deux points qui nous semblent essentiels. On voulait aussi poser la question de cette concurrence et de cette américanisation naissante dès l'entre-deux-guerres dans la presse de mode. Alors là encore, très rapidement, on parlait de l'exemple de Vogue français qui crée le 15 juin 1920 sur le modèle américain et qui symbolise pour beaucoup à l'époque l'américanisation de la presse française. L'historien Gilles Feyel écrit notamment, et c'est notamment, « En cette période de l'entre-deux-guerres, le monde de la publicité, transformé par l'épanouissement de la publicité suggestive à l'américaine, investit dans la presse magazine. » Donc cette idée de le magazine avec les publicités, la manière de faire la publicité, ce marketing décomplexé qu'on ne retrouve pas du tout dans la presse française à l'époque, on pose la question de est-ce que ça a contribué à américaniser la presse française. En 1937, on a la création de Marie Claire, que Gilles Feyel encore qualifie de magazine emprunté au journalisme américain. On a aussi la presse de cœur qui se développe, Confidence de Paul Winkler, on a aussi le journal de Mickey, on a plein d'autres exemples, mais dans la mode, dans la presse de mode, on voit qu'il y a une influence très intéressante qui vient des États-Unis et des formats de presse américains, des méthodes journalistiques, des pratiques photographiques. Donc la question de la presse de mode aussi qui nous semble importante comme vecteur de modèles, de pratiques, d'idées. On a aussi la question un peu plus délicate des habitudes de consommation, qui dit magazine, dit une autre manière de publier la publicité, de parler notamment des cosmétiques, et on sait que c'est un thème important dans l'entre-deux-guerres, les cosmétiques. Alors bien sûr qu'il y a des cosmétiques en France avant l'entre-deux-guerres, et que ce n'est pas que des Américains qui vont exporter les cosmétiques en France, mais on a le rôle notamment, parmi d'autres thèmes, le rôle joué par Elena Rubinstein ou Elisabeth Arden, des businesswomen qui sont à la tête d'instituts de beauté, qui vont révolutionner l'industrie de la beauté, et qui sont à la fois des modèles de femmes, des modèles de femmes d'entreprise, des modèles de scientifiques, des modèles de femmes qui savent très bien publiciser leur marque et qui vont en faire un vrai business. Donc c'est aussi des modèles à l'époque de la garçonne, de la promotion de la femme moderne, toujours entre guillemets, la promotion de la nouvelle femme des années 20. Ces figures jouent un rôle très important. On a aussi le rôle de la publicité à l'américaine, lié au magazine, cette nouvelle rhétorique publicitaire, acheter des cosmétiques, le dictat de la minceur, de la jeunesse. On sait que la femme américaine est vendue à cette époque comme un modèle. Les annonceurs américains sont très volontaires pour diffuser la femme, le modèle de la femme américaine qui a accès à plus de produits, qui lui facilite le quotidien aux États-Unis. C'est un modèle qu'on va exporter en Europe. Donc, est-ce qu'on a dans ces différents phénomènes, la pub, la cosmétique, les modèles de femmes, est-ce qu'on a l'irrésistible pénétration du modèle américain, ou est-ce qu'il faut être nuancé? C'est une question que l'on aimerait poser, parce que c'est difficile de mesurer est-ce que les publicités ont conduit à l'américanisation des lectrices françaises, des lectrices de luxe, hein, même si on sait que la garçonne se diffuse dans la presse populaire. Est-ce que ça introduit auprès d'elle des nouvelles habitudes de consommation plus précoces que dans d'autres magazines qui vont apparaître plus tard, des magazines français? Donc Votre Beauté, qui n'apparaît qu'en 1932, va focaliser sur la beauté, mais oui, 10 ans après Vogue. Et Votre Beauté, c'est un magazine français. Alors, est-ce que le magazine américain, dès 1920, joue un rôle? C'est la question qu'on veut poser. On veut aussi aborder la photographie de mode. Marlène, cet après-midi, nous parlera de la photographie de mode. Et notamment, toujours un exemple, un petit point qui va nous ouvrir le débat de cet après-midi. On voit que dans l'entre-deux-guerres, on a deux conceptions différentes de la photographie de mode, toujours dans Vogue et dans Vogue français. On a par exemple pour une équipe américaine, la photographie doit être un art du réel, du vrai. Il faut montrer les photos, montrer les vêtements. Il faut que les photographies soient nettes, claires, réalistes. Car, dit Condé Nast dans les archives, il faut que la lectrice puisse, à partir de la photographie de mode, commander sa robe auprès de la maison de couture, pouvoir la reproduire chez elle, qu'elle ait une vraie impression de la robe, qu'elle n'ait pas une image de la robe. Quelle est la robe grâce à la photographie? Donc on parle de l'illusion du réel, du vrai. Et de l'autre côté, dans Vogue français et dans d'autres types de presse, on a la tradition française qui privilégie l'interprétation, l'évocation. On retrouve dans les mémos échangés entre les rédactions une édition française qui est inspirée par le pictorialisme à l'époque, pas du tout par le modernisme photographique. Enfin, il faut nuancer le pas du tout, mais voilà, c'est une photographie qui se conçoit d'abord comme un art, qui est un art, et c'est aussi toute la tradition des beaux-arts français, la photographie doit être une impression. Et lorsque vous consultez les archives Condé Nast, on a beaucoup de mémos où l'édition française se fait un petit peu remise à sa place parce qu'elle elle ne respecte pas ce canon de réalisme, cette exigence de vrai et de réalisme. Notamment, on a pris deux extraits de mémos qui nous semblent réalistes, révélateurs. Un mémo envoyé par Condé Nast à Michel de Brunhoff, qui gère Vogue français, je cite, en 1937, « J'ai fait la leçon à Horst, donc Paul Horst, photographe, sur le manque de lumière dans ses photographies, publiées dans Vogue français. Nous souhaitons combattre cette manie chez les photographes de tout auréoler d'un mystère profond. Je suis malade et fatiguée d'entendre des femmes me dire « Comment est faite cette robe? À quoi ressemble-t-elle » Un an plus tard, Condé Nast à Michel de Brunhoff, « Plusieurs des photographies du numéro du 15 septembre ne sont rien d'autre que des traces noires. Forcez-vous à montrer la robe, mettez-la en lumière dans ce but précis. Et si cela ne peut pas être fait artistiquement, alors que l'art aille au diable. Montrez la robe, ceci est un ordre direct qui vient de la bouche du patron, et inscrivez-le donc, s'il vous plaît, dans le studio. » Donc on voit vraiment, pas cette lutte, mais toujours ce rapport un petit peu ambivalent entre les méthodes et les savoir-faire. Donc toutes ces questions parmi d'autres, nous a conduit à nous interroger sur la notion d'américanisation, une notion qui est, comme les notions de modernité, qui sont un petit peu délicates parce qu'elles sont très frontales. Et cette question d'américanisation, dans l'entre-deux-guerres, elle est très prégnante, elle devient très importante dès l'entre-deux-guerres. Et notamment, je pense que vous les connaissez tous, ces propos de Georges Duhamel dans « Scène de la vue future » en 1930, lui va mettre en garde contre l'américanisation. Et il dit « Cette Amérique représente donc pour nous l'avenir, notre avenir. » Tous les stigmates de cette civilisation dévorante, nous pourrons, avant 20 ans, les découvrir sur les membres de l'Europe. Pour une poignée d'hommes qui considèrent le phénomène avec défiance et tristesse, ils sont 1000 qui l'appellent à grands cris. Donc lui met en garde, il inclut l'influence d'Hollywood, le jazz, tout ce qui va influencer la société américaine. Alors, par américanisation, nous, on retiendra la définition de Richard Cuisel, même s'il y a forcément d'autres, peut-être, que vous pourriez convoquer. L'américanisation comme la propagation du modèle américain et comme l'avènement d'une société de consommation. L'américanisation, à voir différence, ça serait, on le conçoit pas forcément comme la modernisation, pas forcément. Ça serait deux choses différentes, modernisation et américanisation, mais ça serait plutôt avènement de la société de consommation, propagation de modèles, de pratiques et d'habitudes de consommation. Donc on pose cette question de l'américanisation et en balance. Notre vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a une véritable américanisation ou on parle plutôt d'une internationalisation des pratiques? Ça permet de nuancer le propos. Christian Delporte l'étudie, il étudie la presse hebdomadaire de l'entre-deux-guerres et lui propose ce modèle. Il compare les hebdomadaires américains et français, il dit, et il compare ça à la société, il dit ne parlons pas d'américanisation totale parce que c'est une réflexion binaire, l'influence de l'Amérique qui aurait envahi la France, et c'est où la francisation de la société américaine par certains côtés, c'est quand même très, voilà, c'est très binaire, et nous, on est vraiment parti du principe qu'on aimerait plutôt réfléchir à une histoire connectée de la mode, une histoire connectée des pratiques de mode, et envisager plutôt les échanges, les interférences entre les pays, et pas seulement un modèle qui est exporté, qui est imposé à une autre société. Donc l'idée de nuancer, et de voir ça non pas en termes bilatéral, mais avec des influences, aussi l'influence de l'Allemagne, d'autres influences qu'on prend rarement en compte dans le terme d'américanisation. Donc, je crois que je vais m'arrêter là pour ne pas déborder. Donc voilà, cette question qu'on aimerait interroger aujourd'hui, donc on vous invite vraiment à, en fonction de vos recherches, qu'est-ce que vous pensez de ce terme? Est-ce qu'on peut l'utiliser ou est-ce que c'est plutôt mieux de parler d'internationalisation, d'échange et de nuancer notre propos? Donc voilà pour cette petite introduction.
Génial. Alors en premier, nous allons entendre Nancy Green, qui est directrice d'études à l'EHESS, qui travaille actuellement sur genre et immigration et qui vient de publier Les Américains de Paris, hommes d'affaires, comtesse et jeune oisif, 1880-1941, des éditions qui Gébelin, super. Et qui est aussi publié en anglais, donc je vais aussi citer le titre en anglais. The Other Americans in Paris, Businessmen, Countesses, Wayward Youth, 1880-1941. Aujourd'hui, Nancy Green va nous parler pour une histoire comparée de la mode. Et on l'écoute avec plaisir.
Merci. Merci beaucoup pour cette invitation qui me fait replonger dans les questions de mode en perspective comparée et qui m'a amené aussi à réfléchir sur la comparaison, ce que la comparaison peut apporter ou non dans les études de ce type. Donc, j'aimerais juste commencer par quelques réflexions sur la méthode comparative elle-même et qu'est-ce qu'on veut dire par éventuellement une histoire comparée de la mode. J'ai souvent constaté qu'on fait de toute façon des comparaisons tout le temps, des comparaisons qu'on peut appeler des comparaisons sauvages. La comparaison en France avec les États-Unis de manière générale est très fréquente comme une espèce de troupe courante. Ce qui m'intéresse en tant que chercheuse, c'est de construire une comparaison et de réfléchir sur ce qu'est une comparaison réfléchie, construite, peut nous amener au point de vue de la science, de la connaissance, et que j'ai souvent été amenée, en fait, à travers le projet que j'avais fait sur le sentier, la 7e avenue, sur donc cette industrie de la confection, surtout la confection à Paris et à New York. Ça m'a amené aussi à réfléchir sur ce que on faisait en tant que comparaison, en fait. Une chose qui me semble claire, et peut-être ça rejoint un peu les derniers commentaires, c'est que ce qu'on choisit à comparer déjà implique certaines choses. Donc si on choisit de comparer la France et les États-Unis, que ce soit sur la mode ou pour autre chose, c'est un choix. Pour les histoires de l'industrialisation, par exemple, de comparer la France et les États-Unis, c'est une chose. Comparer la France et l'Angleterre, c'en est une autre, d'ailleurs, qui était très beaucoup, beaucoup fait. De comparer la France et la Russie, le choix, déjà, implique finalement aussi certaines conclusions, puisque ce qu'on choisit de comparer va nous amener, implique déjà un choix et va amener aussi certains types de résultats. Donc ici, le choix en amont, effectivement, France et États-Unis, et puisque en fait les dernières questions sur internationalisation posent la question de quels sont d'autres types de comparaisons possibles finalement avec d'autres aires géographiques, d'autres formes de production de la mode. Donc simplement mon idée de base, c'est que le choix de la comparaison, différents types de comparaisons donnent différents résultats. Il faut être auto-réflexif pour d'emblée reconnaître on ne peut pas tout faire, mais que les choix qu'on fait dans la comparaison impliquent certains types de recherche, certains choix dans la recherche déjà. Quand je réfléchis sur l'histoire comparée aussi, je me dis l'histoire comparée, pourquoi faire? Pour moi, il ne s'agit pas de créer des hiérarchies, puisque ça, c'est une forme de comparaison que je dirais qui peut être tout à fait nocive d'ailleurs. Ce n'est pas pour faire des bons points, de dire qu'est-ce que l'un ou l'autre a fait mieux que d'autres. Mais pour moi, ça a toujours été de questionner des généralisations qu'on peut faire si on traite qu'un seul aire géographique ou un seul endroit. Donc si on commence par une histoire de la mode en France, on va avoir certaines réflexions de manière générale qui émergeraient de cela. Si on fait la même chose indépendamment dans un autre endroit comme les États-Unis, on va aussi voir émerger un autre type de questionnement, un autre type de résultats. Et que ça peut mettre en cause, en fait, une première lecture. Donc, quand on travaille sur un aire géographique, on tire forcément des conclusions sur nos recherches. Quand on passe sur un autre, ça peut mettre en cause ou nuancer, en fait, les conclusions générales qu'on aurait tirées d'un seul exemple. Après, le problème, c'est de savoir combien de cas on peut faire et quelles sont les véritables possibilités pour la recherche. Mais, donc, tout ceci concerne en fait la recherche menée par des chercheurs sur un objet et la forme que peut prendre une histoire comparée. Encore une fois, quelque chose construit par le chercheur avec une réflexivité sur ce que veut dire la comparaison qui est choisie et comment ça peut aider à aller au-delà d'un seul cas pour questionner en fait le phénomène lui-même qu'on aurait choisi d'étudier. Alors, il y a eu des critiques de l'histoire comparée vue seulement de cet angle-là. Pour moi, l'histoire comparée est plus large que ça et ça implique des échanges qui sont l'objet de la journée d'aujourd'hui. Et pour moi, l'histoire comparée implique également que les sujets que nous étudions, qu'on peut aussi étudier comment eux, ils ont vu la comparaison. Donc, c'est-à-dire que c'est une comparaison peut-être à double échelle. Il y a d'abord une comparaison qui est heuristique pour le chercheur qui amène à interroger nos généralisations d'un seul cas, mais il doit inclure, quand c'est possible, ce n'est pas toujours le cas, parce que parfois on peut choisir deux choses très distinctes qui n'ont pas vraiment d'interaction entre eux, mais quand il y en a, et c'est encore plus riche, on doit intégrer ces échanges dans la comparaison, puisque pour moi les échanges sont finalement, les échanges sont une forme de comparaison active de la part des sujets qu'on a pu étudier. Alors, je vois que j'ai oublié mon livre parce que je vais quand même faire quelques exemples tout à l'heure. Et ceci dit, ce que je pense est important, c'est d'effectivement questionner ces termes. On peut revenir sur américanisation, internationalisation, etc., de voir ce que les échanges sont sur le terrain et aussi de poser des questions de la comparaison que les chercheurs peuvent apporter et aussi comment sur le terrain les acteurs eux-mêmes ont fait ces échanges et ont perçu l'autre. Donc, une histoire comparée pour moi inclut croisement, connexion, circulation, échange. Et on peut voir, pour notamment l'histoire de la mode, ces échanges sont de l'ordre des emprunts, entre guillemets, de la contrefaçon. Il y a différentes formes même d'échanges et de comparaisons qu'on peut faire sur le sujet même, qui sont au cœur de cette problématique. Deuxième chose, après des questions générales sur qu'est-ce que histoire comparée veut dire, ce qu'on peut faire et quel est son intérêt et jusqu'où on veut aller avec ça. Vous savez, moi, j'ai toujours été intéressée à la fois par la mode, mais aussi par le mode de production de la mode. Il est vrai que mes recherches se sont concentrées sur la confection, ainsi que c'était appelé pendant longtemps, et que mais pour, je pense aussi, évidemment, et pour la mode de la haute couture et toutes les formes de production de la mode, qu'il y a des questions à poser sur la façon dont c'est fait. Quelles sont les différentes formes de production, comment ils ont évolué dans le temps et comment ces formes-là sont liées avec la production de la mode proprement dite. Donc pour moi, une histoire de la mode, comparée, disons, ou non, enfin, ne devrait pas être coupée de son mode de production. Donc, histoire économique, histoire sociale, histoire de la production, une histoire de l'industrie en tant que telle, et même quand c'est l'industrie, si on peut dire, de la haute couture, enfin, industrie dans le sens d'une branche économique qui est prospère et qui a une grande activité économique. Ça implique aussi une histoire des travailleurs de la mode, et que ce soit des travailleurs à toutes les échelles de la production. Et évidemment, pour moi, ça m'a amené, enfin, en fait, j'avais commencé par l'étude des migrations, des immigrés dans cette branche. Donc, immigrés étrangers qui font partie des travailleurs de la mode, de ce donc mode de production de la mode. Donc, quand, et c'est une critique que j'ai pu faire par rapport à l'exposition à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration sur la mode, que si on parle des étrangers dans la mode, il y a effectivement les grands couturiers, mais il y a aussi la masse des travailleurs immigrés et que je pense qu'ils auraient dû mieux les mettre en avant aussi dans cette exposition, mais ils savent mon avis là-dessus. Donc, à toutes les échelles de la production, à toutes les formes de production. Mais ceci dit, de comprendre l'industrie ou la production de la mode à tous ces niveaux, je dois dire que pour moi reste une question que je n'ai jamais résolue, mais je pense que vous êtes plus spécialiste peut-être que moi et que peut-être vous avez d'autres lectures aussi à me proposer. Est-ce que la mode est produite de manière, la mode en tant que forme esthétique, est-ce que c'est créé de manière top-down ou bottom-up? Est-ce que ça vient d'en haut? Est-ce que c'est ça cette question d'interface pour moi entre la mode et le mode de production? Comment est créé des styles et dans quelle mesure la forme de production implique certains choix, dans quelle mesure effectivement les choix esthétiques arrivent d'une certaine manière d'en bas, mais c'est un autre débat et je n'entrerai pas là-dedans. Aujourd'hui, c'est simplement pour dire que pour moi, c'est une tension constante entre la mode et le mode de production. Donc, et comment les rapports entre les deux se font. Troisième série de remarques après l'histoire comparée et cette histoire enfin, de ne pas oublier les modes de production. Troisième question, et pour la mode donc, en tant que telle, sans parler, donc, je ne vais pas m'attarder plus sur les questions de production, comment est-ce qu'on peut comparer les visions réciproques des modes et qu'est-ce que cela nous enseigne? Donc ça vient plus au cœur du sujet. Et de quel mode s'agit-il? Mode des hauts couturiers ou mode, moi je dirais, ordinaire. Il y a peut-être d'autres formes ou d'autres termes qui sont meilleurs et qui peut-être sont plus utilisés. Mais... évidemment, là aussi, il y a des rapports, bien que parfois on voit des robes des grands couturiers et on ne voit pas le rapport de ce qu'on pourrait porter dans la rue. Mais il y a des rapports, on le sait, entre différents niveaux de mode. Mais pour moi, ça reste une question quand on parle de la mode, de quoi parle-t-on, de quel type de mode. Pour moi, il y a une production ordinaire de la mode, une production dans cette industrie du vêtement plus largement définie. Et donc, ça aussi, c'est un choix de chercheur, c'est-à-dire... Si on veut comparer la mode, de quel mode qu'est-ce qu'on compare? Est-ce qu'on compare des défilés de grands couturiers, ce qui est un sujet en soi? Est-ce qu'on compare la production à différents niveaux au-delà de ça? C'est encore un choix du chercheur. Donc, moi, j'ai choisi de considérer qu'il y a une production de la mode même au niveau de la confection, mais ça implique autre chose qu'une comparaison des hauts couturiers, et ça, j'assume. Ce qui m'avait toujours frappé, et en faisant des approches comparatives, c'est que en fait, on arrive à avoir une spirale de comparaison. C'est parfois un peu effrayant, mais parce que en fait, on compare beaucoup de choses en même temps, et un objet de comparaison peut aussi amener à faire finalement d'autres comparaisons en même temps. Donc, en ce qui concerne la mode, l'histoire de la mode, on peut effectivement faire une histoire de la mode diachronique dans chaque pays. Déjà, c'est quelque chose d'ailleurs souvent fait. Mais il y a la question, par exemple, de comparer des marchés internes, des marchés externes dans les deux pays. C'est une des choses qui a été fin 19e, début 20e siècle, quand on parlait d'une différenciation entre les industries vestimentaire américaine et française, on disait qu'entre autres le fait qu'il y avait différentes formes de marché intérieur, plus d'exportation déjà pour la France, mais on voit bien que le marché extérieur américaine montait. Donc comparaison économique des marchés internes, externes peut faire partie aussi d'une histoire de la mode comparée. Aussi comparaison de l'éducation en art industriel, c'était une des questions de débat. Est-ce que, surtout vu des États-Unis, est-ce qu'on est suffisamment bien armé pour concurrencer l'art français, est-ce qu'il ne faut pas, et l'art industriel français, est-ce qu'il ne faut pas étoffer nos formes d'éducation d'art industriel? Donc c'était déjà une question comparative en soi qui était posée par, par les industriels et par leur inquiétude sur ces formes d'éducation. Donc on pourrait faire une histoire de comparer entre FIT, the Fashion Institute of Technology, et le design à Paris. Donc il y a et leurs histoires en amont pour voir qu'il y a là donc une autre histoire en fait comparative possible. En même temps, l'histoire des syndicats du métier est un sujet en soi. Donc, comparer des syndicats du vêtement dans les deux pays m'a amené à des considérations sur le fait même de faire cette comparaison. D'une part, les archives étaient très différentes. Il y avait une archive abondante à New York de la ILGWU, l'industrie de confection féminine. Et à Paris, c'était plus ardu. La CGT n'avait pas, donc les fédérations, j'avais du mal à avoir les archives des fédérations. Mais qui était lié en soi aussi à plein de choses différentes qui pourraient être, qui sont aussi l'objet de comparaison, la comparaison de formes syndicales. Des formes syndicales dans les deux pays. Donc vous voyez comment un sujet qui était la mode et ses industries était une histoire comparée de travail, une histoire comparée de la syndicalisation dans cette branche. Du coup, une histoire de syndicalisation dans les deux pays ou dans l'État de New York et puis en France. Ça a amené aussi à des réflexions sur une comparaison de la législation sociale. Donc tout ça montre combien, au fait, des comparaisons sont forcément emboîtées tout à fait intéressantes, mais qui impliquent aussi, encore une fois, de décider qu'est-ce qu'on fait, comment on limite, en fait, nos choix de comparaison. Alors, ceci dit, et ça, donc, j'arrive quand même finalement au cœur du sujet. Quel est le résultat d'une comparaison de cette industrie dans deux villes à travers une centaine d'années? Alors, il est vrai qu'on retombe sur quelques stéréotypes finalement. Une des questions qui était soulevée à la fois par les acteurs de l'époque et par les chercheurs, les historiens, c'était la notion, et qui entre aussi dans une autre type de comparaison plus vaste entre la France et les États-Unis, la notion que l'un pays représente l'art et l'autre l'industrie. Et ce débat entre art et industrie date du milieu du 19e siècle, au moins. Une des choses que j'ai trouvées pour la production du vêtement féminin à Paris et à New York au XXe siècle, par exemple, c'était, mais une chose qui était particulièrement claire, c'est que la robe pour femmes, faite de manière plus en série, a émergé à New York dans les années 20 et en France encore après la Deuxième Guerre mondiale. On allait pour la mode ordinaire, on allait encore voir une couturière du quartier. Donc il y avait là, par exemple, c'est juste un exemple, mais il y avait un article, mais qui est devenu, c'était un article très important dans la panoplie de ce que portent les femmes. Il y a là un décalage dans le temps qui était clair selon les statistiques et tous les commentaires, etc. Donc, comment et pourquoi, on peut poser la question, il y a eu cette différence. Et c'est là où on retombe parfois, et c'est ça ce qui est la difficulté aussi même de la démarche même de la comparaison de deux pays ou de deux villes, c'est qu'on retombe parfois sur les caractères nationaux pour expliquer que les Français, ils ont plus une tradition artistique et que l'Amérique représente l'industrialisation plus précoce de ce point de vue-là. Mais ce sont, en fait, pour moi, c'était aussi les comparaisons. Donc, ici, on parle de comparaisons dans l'espace. Hein, donc, je reviendrai après sur les comparaisons dans le temps. C'est pour dire qu'il ne s'agit pas seulement d'une comparaison heuristique, qui peut aussi poser la question pour le chercheur, pourquoi ce décalage dans le temps de cette mode de production des articles, d'un article comme la robe. Mais la comparaison géographique se traduit tout d'abord par une véritable concurrence commerciale. Donc là aussi, on a des éléments qui nous amènent à interroger la comparaison des marchés. Mais aussi, c'est que les fabricants eux-mêmes ou les industriels se souciaient, chacun aussi, de la concurrence. Donc on a cette espèce d'interaction de vision réciproque des deux côtés qui essayait d'expliquer les différences entre l'art et l'industrie des deux côtés de l'Atlantique. Donc je peux donner, là il y a une citation de Laborde que j'aime beaucoup, qui était donc ceux qui, dès le milieu du 19e siècle, et souvent c'est autour aussi de toutes ces expositions universelles qui étaient des hauts lieux et des hauts moments de comparaison in vivo où les différentes industries se présentent, les différentes modes de toutes sortes se présentent. Et c'était c'était publié en 1857, la réflexion de Laborde sur le style américain. Donc déjà, inquiétude sur le style américain. Craignez les enjambées de ces know-nothings, les pas de géants de ces nouveaux initiés. Être novice dans les arts et en avoir une passion intelligente, être dans le mouvement industriel et à la tête de cette armée de la mécanique qui est la plus redoutable des puissances et entreprendre de mettre cette force au service des arts, c'est combiner ensemble deux actions qui feront l'effet de levier et du point d'appui d'Archimède. Dans l'état actuel de nos arts et de notre industrie, ce danger est menaçant, car il est facile à l'ennemi d'entamer une troupe qui marche à la débandade. Serrons nos rangs, que les règles du goût comme les lois de la discipline, nous permettent de tenir ces assaillants à distance. Donc déjà pour Laborde, et c'était un grand livre sur les questions d'art et d'industrie plus généralement, menace d'une concurrence américaine est déjà vivace au milieu du 19e. Lui, il est nostalgique de l'ancien régime, donc sa politique, c'est clair. Donc, il y a là mais une première vision de cette inquiétude, cette crainte de la part de Laborde à ce moment-là. Mais en fait, ce n'était pas seulement la crainte américaine, ça on peut voir aussi une internationalisation d'une certaine manière de la crainte, mais qui exprime autant des questions de mode que des questions d'industrie, des questions de pouvoir national, de caractères nationaux. Et donc, à travers une histoire comparée de la mode, on peut aussi voir une histoire comparée des questions, je reviendrai à la fin, de américanisation, internationalisation, et ceci dès le milieu du 19e siècle. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alors, pardon. Autre exemple, et puis je ne vais pas vous fatiguer avec trop des exemples qui ont déjà été publiés, plus tardivement, début du 20e siècle, un avocat, Édouard de Becht, lui, il va parler effectivement de la concurrence de tous azimuts, et là aussi, on retombe sur un peu des stéréotypes de différents caractères nationaux, comme on disait au 19e. Je cite, « Le style de l'anglais s'affirme trop sobre, celui de l'allemand trop lourd, celui de l'espagnol et de l'italien trop éclatant de couleurs, d'harmonie trop vive. Influence de climat et de conditions ethnographiques, sans doute. Entre ces pays froids et ces contrées ardentes, la France présente ses qualités propres, cause de son succès. » Donc, on a donc dans ces comparaisons qui sont faites à des moments précis, et c'est un sujet en soi, de voir comment la mode de l'autre est représentée dans les représentations, on voit qu'il y a derrière, il y a des inquiétudes, il y a des inquiétudes qui sont à la fois de l'ordre esthétique, qui sont de l'ordre économique, de l'ordre industriel, et encore une fois, ça ne date pas d'aujourd'hui, ni de la bataille de Versailles, en fait. Mais vous l'avez bien remonté en amont dans la présentation. Qu'est-ce qu'on voit surtout surtout quand on compare la France et les États-Unis, on voit systématiquement cette opposition entre une France de l'art, du bon goût, de l'individualisme et une Amérique de standardisation, de confort. Les séries, enfin les séries, pas télévisées, mais les séries de la mode, enfin une mode en série, et donc une certaine standardisation des modèles. Mais donc, encore une fois, on a deux registres peut-être de la comparaison. La comparaison qui peut être faite par les chercheurs, une comparaison qu'on peut repérer qui est faite par les acteurs du domaine pour essayer de voir comment ces regards croisés sont de longue date, ce débat entre art et industrie. Un des problèmes, est-ce que finalement on retombe sur les clichés de caractères nationaux, mais c'est pas seulement nous qui le faisons, si c'est des acteurs qui le font eux-mêmes, il faut prendre ça en compte, que si on fait une comparaison de manière historique. Mais quand on compare en tant que chercheur, il faut essayer de comprendre comment ces comparaisons étaient également exprimé par les acteurs que nous pouvons étudier. Tout ce qui précède concerne une comparaison dans l'espace. Il ne faut pas non plus oublier les comparaisons dans le temps. Alors certaines, je pense, pour la mode sont très connues. J'aurais dû apporter cette image mais vous connaissez sans doute les cycles de la mode qu'on montre des formes des jupes qui vont comme ça, qui vont comme ça, qui vont comme ça, ça. Donc on sait qu'il y a des variations dans le temps, dans la mode. Mais il y a autre chose qui me semble sont intéressantes à réfléchir pour les chercheurs. C'est-à-dire que il y a aussi un temps de la recherche, et nous sommes nous-mêmes ancrés dans différents moments de la recherche, et donc la discussion d'introduction qui posait la question du terme même de l'américanisation, je pense que c'est tout à fait intéressante, parce que dans les termes, je dirais, des acteurs de l'époque, du 19e, la première moitié du 20e, et je dirais l'après-deuxième guerre mondiale, il me semble que ce qu'on voit le plus, c'est des questions autour d'un terme comme modernisation. C'était les termes du débat entre art et industrie, industrialisation, mais ensuite modernisation était un des termes qui était beaucoup utilisé. Après, alors, à un moment donné, on m'a reproché pour le dernier livre sur les Américaines de Paris de parler d'américanisation avant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on a dit non, c'est un terme qui est utilisé après la Deuxième Guerre mondiale, et là, la plupart des ouvrages qui sont sur la question de l'américanisation focalisent sur l'après-Deuxième Guerre, sur le plan Marshall, enfin tout ce qui implique ce qui était la puissance montante de l'Amérique après la Deuxième Guerre mondiale. Ceci dit, on trouve bien le terme et l'inquiétude sur l'américanisation dès le 19e siècle et surtout après la Première Guerre mondiale. Donc la référence aux années 20-30, je pense, est tout à fait pertinente, parce qu'il va avoir déjà, et donc pour moi, et je pense que j'ai pu le montrer dans ce dernier livre, que l'inquiétude de l'américanisation, Duhamel est effectivement la meilleure expression de ça. Le livre vaut vraiment la lecture si vous ne l'avez pas lu. Il a fait ce voyage aux États-Unis, il a été agacé partout, mais en fait, avec une ironie où il interpelle ses interlocuteurs, et c'est assez marrant en fait à cet égard. En tous les cas, il y a crainte de l'américanisation dès l'entre-deux-guerres, et ça va être encore une fois pas juste une question de la mode, et bien entendu, mais une question plus large. Alors, qu'en est-il aujourd'hui où on parle plus, donc vous suggérez l'internationalisation, et en même temps, et qu'il y a, je pense, à beaucoup de justesse, bien qu'on voit que même ces craintes concurrentielles dès le début du XXe siècle ne sont pas seulement tournées autour de l'Amérique, mais aussi la mode anglaise ou allemande à l'occasion sont aussi comparées, dans une inquiétude de voir ce que fait la mode française pour montrer combien ça peut maintenir son rang. Mais donc l'américanisation, aujourd'hui, il y a mais je dirais que nous sommes dans une période historiographique où, effectivement, c'est globalisation plutôt qu'américanisation qui sont les termes du débat. Et donc, à ce titre, je vous rejoins sur cette question sur l'internationalisation, mais qui est aussi, disons, globalisation, mais qui, pour moi, pose aussi la question du rapport entre américanisation et globalisation. C'est une question à la fois historique et une question d'usage des termes depuis 20 ou 30 ans. Mais où je reviens donc sur peut-être une double question de temporalité. C'est qu'on peut comparer la mode aussi dans le temps, dans différents pays, si vous voulez, mais aussi en tant que tel, ces cycles de mode, mais aussi le moment où la robe devient un objet de confection plutôt qu'un objet de fait main ou de tailleur du quartier. Donc, ce sont des questions de changement dans le temps. Mais on doit aussi nous interroger nous-mêmes en tant que chercheurs sur, peut-être c'est parce que maintenant j'ai l'avantage d'avoir... J'ai quelques années sur vous et donc il se trouve que donc le travail que j'ai fait sur la confection des immigrés, quand je l'ai publié, et ça c'est, je vais terminer avec ça, quand je l'ai publié en 97 je crois, j'ai fait comme titre dans les chapitres pour une étude comparée des shorts, pour une comparaison des shorts. Et pourquoi ? Parce qu'à l'époque, et donc c'était la fin des années, quand j'ai fini de l'écrire, parce que ça a pris longtemps, donc dans les années 90, il y avait un moment où les shorts à Paris prenaient une certaine forme et d'ailleurs n'étaient pas portés dans la rue, où les commentaires sur les shorts aux États-Unis, il y a un exemple d'un conseil culturel américain quelques décennies même, enfin je crois que c'est dans les années 60, qui a commenté le Bermuda short à Paris en disant mais c'était affreux, aucune Française ne porterait quelque chose pareil. Et encore dans les années 1990, je pouvais encore imaginer que c'était le cas. Et en fait, c'est pour montrer aussi notre propre ancrage dans le temps. Une décennie plus tard, les Bermudas avaient traversé l'Atlantique et étaient devenus un objet de mode à Paris. Alors, et donc, on commençait à porter des shorts dans la rue, je veux dire, autrement qu'à la plage ou en vacances ou dans une maison de campagne. Et donc, dans la ville même, on avait un renversement de cette critique de la mode de Bermuda devant mes yeux, certaines. On peut dire. Donc, le livre devient daté à cause de ma référence sur les shorts. Ça m'ennuie profondément, mais ça m'amène à réfléchir sur les temporalités des chercheurs aussi et comment nos questionnements, que ce soit sur la modernisation, sur l'américanisation, sur l'internationalisation, sont aussi des questions des temps de la recherche et des questions qui sont posées. Et je pense que ce sont des bonnes questions. Simplement qu'on reconnaît qu'ils sont aussi ancrés dans des moments historiographiques. Merci.
Moi, j'ai une question. Est-ce que justement sur la comparaison, des exemples de comparaison que vous avez fait, soit dans le livre sur les immigrés, soit dans le dernier livre, qui vous ont semblé pertinents à l'époque et qui après ont peut-être mené à d'autres à des révisions, des updates ou d'autres manières de penser.
Ben, comme j'ai donné l'exemple des shorts, ça m'avait effectivement, c'est quelque chose qui m'a toujours, depuis quand j'ai commencé à voir des shorts arriver dans la rue et des Bermudas et tout ça, je me suis dit, oh là là, je me suis trompée. Enfin, c'était pas que je me suis trompée, mais que l'idée même, c'est peut-être ça aussi le propre de la mode, c'est que ça change tout le temps. Mais là, c'est carrément aussi une question d'influence. Qu'est-ce qui traverse l'Atlantique ou non, et dans quelle forme et quel format? Parce qu'on pouvait, si on voulait continuer sur le contraste entre les différences dans les deux pays, on pouvait peut-être argumenter que les Bermudas, je ne sais pas, on les appelle comme ça ici, ouais, à Paris, avaient quand même une esthétique meilleure que les Bermudas américains. Donc on retombe encore sur ces distinctions, même si on reconnaît l'influence. On peut dire la même chose quand j'ai vu apparaître une année les blousons de bowling, enfin les blousons des équipes de sport américains arrivés à Paris. Ça n'a pas duré, enfin c'est il y a un certain temps. Après, c'est revenu en différentes formes. Mais donc, il est vrai que ça me fait toujours réfléchir sur, en fait, notre regard comparatif. Et peut-être la mode est pour ça un objet particulièrement utile pour réfléchir sur la comparaison. Puisque c'est tellement changeant, enfin c'est par nature changeante, et donc et les influences qui circulent font que on est au cœur des questions comparatives en tant que chercheur, aussi bien que en pouvant pister ce que les acteurs eux-mêmes voient d'une part ou de l'autre. Donc c'est pour dire la et l'éventuelle fragilité des thèses qu'on peut amener là sur l'industrie de la confection et les difficultés pour que la flexibilisation du travail peut amener pour les travailleurs. Je reste entièrement convaincue que cette industrie est un exemple type des problèmes de flexibilisation et précarité de l'emploi. Ça, c'est au point de vue du travail. Donc, c'est du travail dans ce que moi j'ai fait, c'était plutôt au niveau de la confection. Donc, j'ai aucun regret et aucune. Hélas, ça aurait été bien de pouvoir dire que. L'industrie a pris connaissance et compréhension de ça et aurait essayé de renforcer les protections et les conditions et limiter la précarité induite par cette flexibilité, mais ça n'est pas le cas. Donc, ça reste actuel de ce point de vue-là.
Et juste une autre question. Est-ce que vous avez travaillé sur des cas de travailleurs immigrés qui ont travaillé en France ou aux États-Unis et qui ont travaillé dans l'autre pays?
Ouais.
Et justement sur le ressenti, si on parle du comment est-ce que les acteurs perçoivent, si vous avez des cas d'études de personnes qui
non,
ont...
Non, malheureusement, non. Ouais, mais c'est une bonne question. Et d'ailleurs, quelqu'un, quand j'avais dit le titre du livre en français, « Du sentier à la 7e avenue », quelqu'un m'a dit, mais est-ce que c'est le mouvement d'un vers l'autre? Mais en fait, ça aurait dû être « et ». Et je n'avais pas réagi à l'époque, donc, mais c'est une... peut-être il y en a, mais je n'ai pas pu les trouver spécifiquement.
Merci pour votre exposé. Vous avez beaucoup parlé des stéréotypes nationaux, même peut-être d'un retour de certains modèles nationaux dans le paysage historiographique. Et c'est vrai qu'on le voit. Mais je me demande si votre livre n'a pas aussi, quelque part, montré dans la comparaison et après l'étude fine à la fois des différences et des spécificités culturelles, si votre livre n'a pas montré aussi ce qui lie, ce qui est commun, que finalement entre la France et les États-Unis, il y a beaucoup de choses qui sont les mêmes, même dans des périodes que vous étudiez, parce que vous avez une assez longue durée, qui sont des périodes où il y a une grande tension, où culturellement il y a une grande tension dans cette concurrence, etc., qui a l'air d'être fort présente dans les discours. Mais finalement, un grand apport de votre comparaison aussi, c'est ce qui lie. Et j'avais envie d'un peu vous entendre là-dessus, parce qu'on vous a moins entendu là-dessus aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pensez toujours ça aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours important, si on doit faire l'étude comparative des deux?
Merci, parce que en fait, c'est ça l'argument principal même du livre. C'était plus une similitude qu'une différence. Mais c'était vrai, c'était construit plus sur en fait des conditions de travail et que comment une industrie comme celle-ci a pu, à travers, puisqu'il n'y a pas eu une forme de mécanisation telle ça dépend des articles, ça dépend de la gamme, mais il y a toujours besoin de deux mains pour actionner une machine à coudre. Et les formes de travail donc restent les mêmes. Et ce qui m'avait effectivement frappé le plus, c'était les similitudes. D'ailleurs, de manière générale, quand je travaille sur même les questions d'immigration, à l'étonnement parfois de certains collègues français, il y a plus de similitudes pour moi dans les formes des flux migratoires et même les formes d'accueil et de xénophobie des deux parts de l'Atlantique qu'on ne pense en général. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est très important. Mais votre question donc m'amène à penser, est-ce que c'est en mettant l'accent ce matin sur la mode en tant que telle, que est-ce que c'est la part, est-ce que je tombe aussi, peut-être que je pourrais dire que l'aspect industrialisation a un effet similaire dans les deux endroits, est-ce que l'effet mode a encore un effet plus différentiel? Et ça, donc j'ai peut-être plus mis l'accent là-dessus, parce que en écoutant aussi, en voulant répondre au thème d'aujourd'hui, mais aussi en écoutant les acteurs eux-mêmes, qui sans doute aussi, peut-être pour des raisons de différenciation commerciale, aussi doivent aussi imaginer les différences. C'est aussi un argument de vente. Les critiques américaines de la mode française, c'était que c'était peut-être bien joli, mais c'était difficile à porter, que c'était trop, il fallait prendre des heures pour bien pouvoir faire pour se mettre dans des robes complexes, tandis que la vision française de la mode américaine, c'était que c'était moins sophistiqué, que ça n'avait pas le goût qu'il fallait, il n'y avait pas le sens de détail, etc. Donc il y avait des deux côtés, je pense qu'il y en a souvent encore, ces visions réciproques. Ça fait partie à la fois les gens vont insister que c'est des questions de goût d'une part ou de l'autre, mais c'est aussi des constructions, des représentations peuvent aussi être utilisées comme argument de vente. Donc il y a deux aspects de ces contrastes qui peuvent être construits. C'est un des avantages peut-être d'être historienne et dans ce livre d'essayer de travailler aussi sur une longue période qui m'a amené à voir plus de similitudes dans le temps que bien que j'ai dû en fait la structure même de mon travail, c'était que j'ai commencé par la notion de comparer les immigrés dans les deux villes et cette industrie qui est particulièrement une industrie qui fait appel à des immigrés. Mais il m'a fallu un demi-livre pour expliquer l'industrie elle-même, qui est fort complexe et qui a cet aspect de mode propre et de artistique, goût, etc., qui est nécessaire pour comprendre ensuite comment est structurée la fabrication. Donc la mode pour expliquer le mode de production, mais j'ai toujours encore la question dans quelle mesure le mode de production influe sur la mode elle-même.
Bonjour. C'est juste une remarque par rapport à l'introduction de Sophie. C'est vrai qu'il me semble que les comparaisons sont parfois périlleuses. Par exemple, en ce moment, moi, je travaille un petit peu sur Yves Saint Laurent et c'est vrai que par rapport à ce que vous avez dit, pour les premières mannequins noirs, il semblerait que ce soit plutôt Yves Saint Laurent qui est décidé de faire défiler des Noires américaines avant les États-Unis. Alors j'espère que je ne me trompe pas, dans les années 60 déjà. Et il aimait justement leur façon de marcher, leur côté très libéré. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que par rapport à ce que vous avez dit, il me semble que les comparaisons sont quand même assez périlleuses. Enfin, c'est un petit exemple, mais il y en a d'autres. Par exemple, la difficulté de s'habiller. C'est vrai qu'en France, très tôt dans les années 60, il y a justement, et début 70, avec Saint-Laurent, mais aussi avec Courrèges, des manières de s'habiller, au contraire, avec des pantalons d'hommes, bien sûr, mais aussi des jumpsuits qui sont donc dans lesquels on rentre avec une simple fermeture éclairée.
Mais ça m'a fait penser aussi, pour rebondir là-dessus, deux choses qui étaient évoquées, et je pense aussi sont des moments, une chose qui quand même va changer aussi la mode et sa production, c'est le sportswear, et qui va être considéré comme effectivement une importation américaine ou plus un résultat des modes de vie. Donc là aussi, on entre dans les questions de mode de vie. Vous avez des façons de, comme vous avez dit, des façons de marcher qui peuvent être différentes, mais aussi donc les modes de vie et les désirs, enfin la demande de la consommation. Donc ça, c'est une chose qui est étudiée comme un moment de différenciation. Mais ceci dit, il y avait eu le mot irrésistibilité de ce phénomène. Et ça, je pour d'autres phénomènes aussi, et quand on parle des comparaisons, et quand on parle de l'américanisation en particulier, il y a cette notion parfois d'une irrésistibilité. C'était le titre du livre de Victoria de Grazia sur l'empire irrésistible. Je pense que peut-être elle regrette le titre aujourd'hui, mais on peut facilement dire que ce n'était pas vu forcément comme irrésistible à l'époque. Donc, même s'il y avait ces inquiétudes que la Borde ou d'autres ont pu exprimer, ça ne veut pas dire que c'était forcément un rouleau compresseur qui allait tout balayer. Donc, il faut que, là, pour le coup, l'histoire peut essayer de remettre de voir qu'est-ce qui est dit à chaque époque. Il y a certains gens qui sont extrêmement inquiets, comme Duhamel, et d'autres qui seraient moins, ou qui disent, voilà, il y a des solutions. Et donc, après, on sait l'histoire commercial, l'histoire économique ou l'histoire esthétique, mais c'est vrai que c'est une question intéressante de la perception. C'est une question de perception temporelle et en plus comment les chercheurs voient ce qui précédait. Quand on fait le propre des historiens, c'est de chercher les origines de quelque chose, ce qui donne un sentiment qui renforce un certain sentiment d'irrésistibilité. Mais c'est simplement parce que c'est notre boulot, enfin c'est notre travail en tant qu'historien, c'est de chercher. Si on cherche des origines, c'est que forcément on a l'impression que c'était ainsi. Quels ont été les moments où ça aurait pu être différent, c'est à voir aussi. Oui.
Notamment cette question de l'américanisation de la presse française par la presse américaine, c'est une idée très répandue, mais quand on étudie par exemple les rédactions, on voit que la France, quand Michel de Brunhoff prend Vogue français en 1929, il a une seule envie, c'est le franciser. Il le dit, je veux me démarquer l'édition mère. Et donc ça passe à travers des reportages sur les arts français, sur les couturiers français, et plus on évacue un peu tout ce qui est fait américaine, etc. Et Condé Nast, donc l'éditeur américain, lui fait des mémos en lui disant qu'il sort de son domaine et que l'édition anglaise, elle a bien réussi, Vogue anglais a respecté la méthode américaine, la manière de faire, etc. Et que là, on voit que la rédaction française publie ses propres couvertures, fait ses reportages, et Condé Nast n'est pas très content de ça. Et en 1936, il a Bettina Wilson, qui est l'américaine à Paris, qui est un peu l'œil de Moscou à Paris, il lui demande dans un courrier de rentrer aux États-Unis pour rafraîchir son point de vue américain qui se francisait. Enfin, c'est écrit, c'est pas. Donc, c'est très.
Tout à fait intéressant, parce que dans le livre justement sur les Américaines de Paris, il y a une partie sur en fait ces tensions entre les managers les grands patrons aux États-Unis et comment ils voient, que ce soit pour la mode, c'était le cas pour le maquillage de Max Factor, comment ils voient et qu'ils veulent insister sur une standardisation de leurs produits partout. Et ils ne sont pas contents quand quelqu'un dans un autre pays dit « mais oui, mais ce n'est pas comme ça, les couleurs françaises ne sont pas les mêmes que les couleurs américaines ». Et donc il y a des grandes, et ça depuis le travail sur la confection jusqu'au travail où je ne pensais pas le trouver en fait de cette manière-là, mais c'était très clair dans les archives des industriels, enfin des représentants des compagnies américaines en France ont dû parfois être en tension justement avec la maison mère pour exactement les mêmes questions. Et ça pouvait être sur les savons comme ça pouvait être sur le maquillage. Et c'est une tension constante en fait.
Et aussi, on a l'impression que la France est un peu orgueilleuse. On voit qu'ils sont fiers de leur tradition de beaux-arts, de haute couture. Ouais. Et voilà, Jean Condé Nast, vis-à-vis de Brunhoff, il lui dit, votre orgueil, ça suffit. Il faut maintenant faire comme nous. Et la méthode anglaise est beaucoup plus
voilà, suis l'Amérique. Et on voit qu'il y a aussi cet orgueil un peu français, on est supérieur, on a la haute couture, on a les arts.
Mais,
on a...
mais l'envers, c'est l'orgueil américain qui dit que notre produit passe partout et oui. il n'y a aucune raison de, oui. de faire autre chose. Il y a eu un ouvrage très intéressant dans les années 20, juste avant la crise de 29, d'un Américain qui parlait de cette américanisation. Et il parlait des succursales, etc. Mais il y avait un pendant des Américains qui disaient que pour faire du commerce ailleurs, il faut quand même s'adapter. Donc il y avait aussi une autre image de comment on pouvait faire une américanisation, mais en mieux s'adaptant en fait aux besoins locaux. Donc je pense que c'est une tension entre standardisation et flexibilité qui passe seulement au cœur des relations du travail proprement dite, mais dans la conceptualisation même de l'organisation économique.
Merci beaucoup.
And history, it helps if the microphone is on. Her current project, which she just received a 3-year grant for, are on transnational motorcycle clubs within Europe, yes. Three countries in particular.
Especially Austria, Germany, and Czech Republic, maybe Slovakia.
Let's Wonderful. and she defended her dissertation in 2013 on a totally different subject. Fashion and prestige in urban North India. So this is a new project that you've been working on for a year.
Yeah, roughly, but on side of reworking the old project. So.
Great.
So, I've also really recently published a book about the Indian luxury fashion industry, which is called Indian Luxury Fashion. And it's been published with Bloomsbury. So if you Google luxury Indian fashion and my name, you will find my book. But today I will speak on a different topic, which is this new project that Maud kindly mentioned. And I don't know how familiar you are with the subculture of the outlaw motorcycle club, so I will introduce it a bit for everyone. And then what I'm interested in as a social anthropologist in particular is the relations between what can material objects do, what do they do in life, and how do they relate to certain ideologies, how do they spread cultural ideologies, and so on. So for me, in this context, what is interesting, I mean, I don't even speak French, and I don't know much about France, but these clubs are very international, and they have managed to spread in a lot of countries. So I take the example of Hells Angels because it's the biggest club so far. It was established in 1948 in California, in Oakland. And since then, since especially the 60s, they have emerged transnationally. In the 60s, they have moved to Australia first, then to New Zealand, and then to UK. And from UK onwards, from the 70s, they are all over Europe. Now they have even charters in Africa, Latin America, and so on. So they are today in 53 different countries all over the world. And they are labeled by law enforcement as a criminal organization. Many have faced charges of dealing drugs, running prostitution. This has been famous, especially in Germany. Now, recently, I have read in your French news, even though my French is non-existent, I could understand that much, that there has been a case in Bordeaux, where the Bordeaux Charter of Hells Angels has been running cocaine. The thing is, it's very hard to label them as a criminal organization because not all members are criminals, and it is a subculture in its own right. There are people basically interested in motorcycles and so on. So I don't want to be morally judgmental regarding my informants. That's the important thing. But this is the common perception. This is the very often media perception of these clubs. So what I want to look at today is their fashion, because the fashion that was established has a very, it's very interesting in terms of the fact that it reproduces the social organization of the clubs. So for instance, when you look at the case of New Zealand gangs, you can see that even though the gangs are not motorcycle clubs, they have appropriated the way Hells Angels especially organize themselves in order to have effective organizational structure. And the way they organize themselves is embodied or materialized in the jackets, in what they wear. And this creates a collective identity. So I want to unpack a bit how this works. But before that, I want to give you a little bit of a view of the subculture as such from your own country. And so actually, the Paris Hells Angels have been here for 35 years, since 19... 19- 92, I think, something like that. And they will be celebrating 35th anniversary now, 22nd of April. So you're most welcome to see them on the street. I'm sure they're going to make a big show for the public. And this is their promotional video. Oh, why is the sound? So this is your local charter. And so what I want to look at now is that you can see already that maybe it, this is about a very, very American export product. Again, as the law enforcement says, also within the criminal scene, Outlaw Motorcycle Clubs are the only American export organization. I mean, the Americans have imported the mafia and so on, but this is really the export thing to the world. And of course, you must know, I'm sure, iconic movies and TV shows. So these people have accumulated a lot of publicity since the very beginning. And there are a lot of books as well, of course, written about Hells Angels, written by ex-members of Hells Angels, written by other motorcycle clubs. That we have other four big clubs that are between the within the big four, which is the Outlaws, MC, Bandidos, MC. Then you have Pagans, and so on and so on. But I want to speak a bit about how this all started. What is interesting for me is to look at the Brotherhood, because it's very transnational. You can see that these are members of the Leipzig Charter. But of course, they have tight connections elsewhere. And already from the jacket, you can see where, from the fashion style. No? When you look at the right person, the Chrome City sign that is down there is a gift which was given to him by members in Finland from the city of Kemi, which has been rendered as Chrome City. They have relabeled the location. So you can see that you can you have you know that already this member has a very tight connection to that particular place. So when you know the code, you can read a lot about the subculture and you can understand what it means. So I want to just look a bit and go back to the bit to the origins of this club. Here we have the iconic picture that has basically started the subculture. In 1947, there was a big riot, as the media said, in Hollister, California. And there is the biggest organization for motorcyclists in America, which is called the American Motorcyclist Association, which is organized every year prior to the war, this type of a run where all the motorcyclists meet. It was again taken up in 1947 after the war. And during this event, there has been some drunkenness on the part of the motorcyclists. There has been some riots. It is not so sure because the media say at that time picked it up and said there are so many of these violent motorcyclists and so on. At the same time, the witnesses, which is the interesting part, say it was not so bad. We made good business in Hollister and we would welcome them. And of course, the next year they came again. So you can already see that what is interesting about myths and myths of origin in particular is that they don't have to relate to reality. The reality doesn't matter when it comes to mythology. And the mythology is very powerful. So this is where the motorcycle clubs date back to this event. Now, this event is also interesting in other sense because the American Motorcyclist Association is said to have said, even though they didn't, and they said several times that they never said this, that 99% of motorcyclists are law-obedient people, middle-class people who like enjoy riding bikes and so on. It's just the 1% that is criminal or that is violent and rowdy. Now, even though the American Motorcycle Association says that they have never said this, the Outlaw Motorcycle Clubs claim that they did, and this is where their very important patch derives from, which is the 1% patch. So you can see that you can recognize immediately any Outlaw Motorcycle Club member by looking at this 1% patch. Now, I find this very interesting also anthropologically speaking, because you can see that they have a mythology that pertains to all outlaw motorcycle clubs at the same time as there are wars between the clubs. And over the time, there have been clubs that hate each other, that have split. So in a way, you have a common narrative of origin. You all identify with this 1% label. But at the same time, eventually it's a clan structure that has developed and that has spread across the world. When you look at the 1% sign, it will be different for each club, and each club has its colors. So, for instance, the Hells Angels have red and white as their colors. The Mongols have black and white. So you can immediately tell also from the patch and, of course, the Deadhead logo, which is trademarked. They are very, very possessive about their, and this is one of the important parts, about their logos. So every logo is trademarked. They use a lot of force, either legal or extra legal force. If you would be seen wearing the logo, you can even get killed if it's a fake logo, if you're not a member. So you should, nobody should ever dare to appropriate this logo. In 2010, Alexander McQueen has had a fashion collection where he appropriated the Deadhead logo, and he was taken to the court, had to destroy all his merchandise, and had to pay a high sum of money. And the Hell's Angel trademark, the Deadhead logo there, has been first patented in 1972, then it became a trademark later. And this has been also appropriated by all other, a lot of the biggest transnational automotorcycle clubs. They have also started trademarking their insignia so that nobody can use it. So in a way, what is very interesting is that the whole culture and the spreading of the culture relies on a very strict branding. And we can go a bit farther. Here we can see the logos of other clubs. This is a particular example from Australia. Of course, this culture has been appropriated also in such a way, so if you can imagine how these clubs spread around the world, it is not necessarily that the clubs become Hells Angels immediately. It doesn't work like that. So the first thing that happens is that a local club wants to be a biker club a la the American club. So this case was also in France, where there was a club before it became Hells Angels. It was a different club, and they just wanted to be bikers like these American bikers and so on. And then they have been spotted by the Hells Angels, and they wanted to hang around. So for a trial period, they were hangarounds, then they became prospects, and then eventually they have been patched over, which means basically destroying all the insignia of the previous club, completely rebranding the clubhouse, importing goods and insignia and so on, and wallpapers and from the US, and completely changing the aesthetics of the club. And that's what brings the brotherhood together. So the aesthetics is extremely important in spreading the culture and in creating this brotherhood. Of course, there is a certain ideology that goes with these clubs, which you can label a brotherhood ideology on one hand. And it is very interesting because it's not, I think that what is important to note is that it's precisely because of the insignia that this fact that you wear the jacket forces you to behave in a certain way. In a way, it works a bit like a fetish. No? I mean, it has to, once you put the jacket on, you have to behave like a Hell's Angel. You have to obey by the rules. Now, in the video, you have seen that the guys very often talk about how free they are. The being in the club is the opposite of freedom. Every single week, you have an obligatory meeting. You have to constantly perform things on behalf of the club. Typically, although they have obligatory meeting every week, typically they meet on at least four times a week. They have obligatory runs. If you're not part of the run, you pay a fine. There are strict rules that are world rules that have been imposed by the Californians, and so on. So being a member means paying a lot of fees, doing a lot of work for the club. This is what brings the brotherhood together. And the jackets and the symbolism are, in a way, something that constantly reminds the members of who they are. Without that, it would be easy to forget, and they force the members to behave. No? Now, very interesting, also the police and so on have recognized the power of the patch, no? The power of this insignia, and they have been strategically trying to target them. So, for instance, in Canada, they have prohibited wearing these jackets in public. In Germany, they have been trying to do the same thing unsuccessfully because the Hells Angels, of course, have a lot of capital and they can afford very good lawyers. So they very often get out of any lawsuit without a big of a problem, which means that now, again, they can wear these jackets in public. Now, the law enforcement says this is intimidating and so on. But in a way, there are still very few members On a global basis, there are around 5,000 members. In Norway, we have 100 members. You know, it is ambiguous. We're speaking about a very little number of members at the same time as there are supporters. So you have 81 supporters, and there are many supporters. So, but the structure is never very clear in relation to the supporters are never invited into the private meetings and so on. So we cannot consider what the relations actually are. But in any case, what is interesting to me is in a way these descriptions also that the members themselves present to me in a way when I put the jacket on, I'm somebody else, I am something. No? And I think that what we see very often in a society is that these people come from a certain background where they're excluded, but all these insignia and things mean that they have achieved something within an alternative structure. Of course, we can take the Merton's strain theory that has been applied to gangs and so on, and look at Cohen's work as well, where he nicely describes how, of course, all these people have an enormous desire for status, an enormous desire for the same consumer goods as the majority society has. They also want some kind of a status. And the only way to achieve this for them, very often because they are uneducated, fairly ugly, they have a hard time getting jobs, all these things play together for their marginalization from the outset, they look for alternative ways of acquiring status. And it is very interesting that, you know, throughout the whole process, before you become a member, it's a very, very long journey of humiliation and constant work for the club. You have to clean the toilets, do anything, you cook for everyone for 3 years and so on. You can even be told to do criminal acts and so on. Many different things that go in there. I have recently talked to a hangaround, which is precisely one of the boys in this position in Norway. And he told me, you know, I just need challenge. I want to achieve something in life. And they provide a challenge. And you think like, okay, and what about the motorcycles? And it's like, no, I need somebody to challenge me. And I think that this is extremely interesting to look at the reasons why people actually join these clubs. And he said, well, previously I've been a member of another club in Oslo, but you know, we had meetings only once a week and there was nothing much to do, but now I can drive you home and you know, I get things to do. And it is really about this achievement. And in a sense, what is very interesting is that, of course, in this sense, the bikers are very, very American. They are the utmost meritocratic structure, whereas meritocracy in practice very rarely works because we know what consequences, you know, we promise that anybody can be a millionaire, but we know how the reality actually is. Within the Hells Angels, the meritocracy is the ideal. So you have to earn every single step. And if you earn it, you get it. So there is a potential for growth within. And I think that this is fairly interesting. And also another thing which I find very, very interesting is precisely how the materials, how the fashion things, as a constant embodiment of these ideologies of the brotherhood, that anywhere you go, you have to take care of your brothers, which means anywhere these people travel, they always have a family, they always have something. They have this motto, like the Musketeers had, you know, one for all for one. This is the motto. So no matter what happens, they will always support each other. In a way, it's a very interesting how this support network works, and it relies precisely on this insignia. Without it, it would not be possible, according to me. And what is interesting is also that since it relies on this totemic culture in a way, it also means that even it is not, we should not imagine these people like thinking, oh, we all are brothers and we love each other. No, they are brothers in a way in that they have to be brothers because that is required. It is not like that everybody loves each other. And I think it is precisely this which makes the ideology very interesting here. Because even though against knowing that we might not like each other, we will still do it because there is something bigger. There is something bigger than just me and you and so on. And you can see how this ideology is brought into practice and people have to act in accordance to it, even against knowing that maybe we are not such good brothers anyway. So, and I think that this is extremely powerful and it can tell us something also about how ideology that is materialized works in practice on a large scale basis. It doesn't pertain only to the clubs. And I wanted to talk also about another thing, about the structure within the clubs. And this is front of the jacket of the Mongols clubs. It's very very big in America, less so in Europe. And you can see that what is very interesting is also all these patches where when anybody dies, you constantly remember the people who died. And even on the Hells Angels, if you look at their bodies would be full of the dead head with rest in peace signs to the former members who died and so on. When you go into the clubhouse, you can see that there is a whole screen with all these images of the people who died and so on. And I think that is very interesting that all these people are always remembered. Next week, there is in Oslo another run for a member who died 3 years ago, and then there is a whole series of bikes that run to the graveyard, and then there is a grilling party, then there is speeches and so on. All these rituals are so powerful that this is precisely the rituals that are invested in the logos. It is not a It has to be constantly reinforced. It is like a brand. Now you constantly have to produce commercials, and in this sense, you have to have certain rituals. It's like a fashion show. You have to have a ritual in order to invest the fashionable piece with some other meaning and so on. And in this sense, all these rituals are important. And the sense also, I think that we can speak, and they themselves speak, of the jacket as a sacred object, and it should be taken with seriousness, that they really perceive this as something sacred. Now, how an object becomes sacred is precisely through these ritual practices, as well as through, for instance, when a member becomes a member. In the old days, it used to be like this in California, it's described in Hunter Thompson's book, that when the initiation ritual happened, in the old days they used to wear Levi's jackets, especially because of the weather, instead of leather, because that would be too hot for California. And so all the members of the club used to piss and shit into the same bucket, and then they washed the jeans in the bucket, and that the member had to wear at least for a month, preferably forever, without washing. And this was the initiation ritual back then. Today we have different methods. There's a sexual initiation where the member has to perform sex acts on a prostitute in front of all the other members. And then all the other members follow his example on the same woman, and so on. So there are many rituals that in a way bring the brotherhood together. And again, all this humiliation, of course, ceases after the member becomes part of the club. So you really can speak of filthy rites, as Greenblatt has described it, or you can speak of initiation and rites in terms of Genep and so on. Very interesting moments, and I think that this is in a way all invested in the jacket. So I just tried to show you what all you can read from the jacket. Also, you can read, of course, the organizational structure, which is important. When you look at the other guy, well, it's not so visible, but you can also often see there are different hierarchy. So you have a president, vice president, you have a sergeant at arms, you have a road captain, all have different functions. You have a secretary, you have a treasurer. Meetings are taken very seriously, for instance. So the secretary makes sure nobody drinks, nobody smokes at the meeting. Everybody has to be clean in their minds and so on. It is not very often as we would imagine. They're extremely well organized. The meetings are very, very civilized and so on. Also, we have wings for different acts, like sex acts. It is nothing too obscene. This first one only means that he had oral sex with a white woman, and the other he had oral sex with a black woman. But anyways, you can already read that from the jacket what even the member has done. And of course, there are patches for if you have killed on behalf of the club. It is sad. I'm not sure. I have seen those patches in my life, and it says "filthy few" for the Hells Angels. The law enforcement says this is awarded to a member who has killed for the club. The club is silent on the matter, so I don't know if it's true. But So in a way, you can read a lot of things, and a lot of things pertain to achievement, even if it's sexual, even if it's criminal, even if it's awarded, and so on. So this is precisely the organizational structure that has been spread also to other countries and works very well for gangs and so on when they try to organize themselves and maintain loyalty and create a sense of authority and so on. So this is just a bit of a basic introduction, and here I have a funny picture, and I thank you.
Well, thank you for your presentation. I wanted to ask you, do you know if in France there are as many rules and obligations and weekly meetings as in the ones you were talking about in Oslo or in the United States? Because I think I live on the same street as the Hells Angels Club in Paris, and I've never seen it open, ever. Yeah. There's no one there. It's never open, and so I don't know if they do these meetings here.
It is not open to public.
Yeah.
So if you want to get inside the clubhouse, there are typically open meetings. They do it maybe once in 2 months for the public. They might throw a party. You can surely find it online. They promote such events, and anybody can visit the clubhouse then. When it comes to the rules and the meetings, these rules come from the Californian Charter in Oakland, which is considered the mother charter. And these word rules have been leaked several times because they try to protect them, but they have been leaked. They have been in the San Francisco newspaper, and then they have been even confirmed by Sonny Barger, who's one of the most famous Hells Angels, and he's the one who started the Oakland Charter. And within those rules, you can find a detailed prescription on about everything, including the weekly meetings, which are obligatory for any charter in the world, including membership fees, including punishment. Of course, they have a set of laws within the club, which means if you don't show up for a meeting, you have to pay a certain amount. If you don't show up for a world run, you have to pay a certain amount. If you haven't sent two members from the charter to the meeting where they have meetings where all the representatives of the club meet, again, you pay. So all these things are very, very formally organized, and again, you can say that all these. Also, if you look inside the club and you look at the aesthetics and design, you can find a lot of these rules written on the walls, you know, or somehow it's like, you know, it's a bit like in Christianity, no? You have a little reminder at home, like, you know, you should not steal. I don't know. I'm not Christian. I don't know what. But, you know, but some reminder of the God and some few lines are there, yeah? And this is very similar, yeah? And also, this brotherhood is constantly nurtured internationally. So when Paris will be celebrating, you can observe it if you're interested in that. I'm sure they have public events. You will see a lot of members from the world coming, and they will be giving a lot of gifts. So they are very creative. They design a lot, and they have spectacular gifts, very well crafted, because most of them are hand workers and craftsmen. So this is really something, even though we might not like the aesthetics or prefer it, it is very well quality done. And so they give a lot of gifts, and then these gifts hang in the clubhouse. So once you get in there, you can see where the club has good relations with whom and where in the world. So you can immediately again read it, and it is very interesting in this respect. So, any more questions?
Okay, thank you.
And thank you for your presentation. You were saying that there are around 1,000 members around the world. Are those like members, persons, or clubs?
No, I said 1,000. Over the world, around the world, there are around 5,000.
5,000, sorry. Okay.
And, no, it's okay, because I said that with the supporters within Norway, it would amount to some number like that. But it is, let's say, every charter has around 13, between 8 to 20 members maximum. And you have... So I'm talking about individualists, I'm not talking about charters. Okay. Charters you have in 53 countries, plus I think there are around 500 charters, so you can calculate roughly how many. Of course, some charters have only 5 members, some charters have more members, and so on. But it is 5,000 individualists over the world around. And of course, today also there's a lot of problems regarding this because they have very strict rules on who is a member and so on, and they have membership lists. These have been, police has taken over these membership lists, so now they're trying to prohibit these people from traveling, so a lot of the Europeans cannot travel to the US, and US cannot travel to Europe, people from US cannot travel to Europe, which also leads to a lot of problems for the club, where the US is losing power, cannot control, and the European clubs are becoming more powerful because they feel like the leadership is not on their butt all the time. So there's conflicts also, of course, within the club in this sense. In Germany, you have also a problem. A lot of new members in the last 5 years. Germany has opened 35 new charters, which is an extreme amount. Within 5 years, 35 charters just in Germany. And a lot of these people are young with immigrant background, and there are conflicts between the old members who are more of this, like, we're into motorcycles, we're into American culture, this is what we want to do. But these people are only interested in our business and being part of our business. So a lot of conflicts in this level as well. Yeah.
Thank you.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Other questions? Yes.
Was it difficult to do the research as a woman?
Well, actually, I think that it's most beneficial to do the research as a woman. Because to men, they are notoriously suspicious. Men are being tested. I have a colleague in Finland who's doing a research on the Outlaw Motorcycle Club as well. He doesn't want to share the name, so I don't know which one. But he has been tried, and it's very hard for him to get access. With me, it has been a little bit easier because, of course, my specialty is intellectual property law, fashion design. I'm interested in their creativity. I'm a bit less threatening. I'm not a criminologist. Of course, it will become part of the study because it's part of the subculture, but it's not my main focus. And in this sense, they have been treating me very well, and they have been very gentlemanly wherever you go. They drive you home, and they make sure that you're safe. And so I think that one of the safest places for me to be is inside a clubhouse. It's not on the streets. Yeah. So I have been so far treated very, very well. Of course, when you maybe say something that you shouldn't have said, you never know. But so far they haven't even been setting any conditions on what, they say, like, you should do a proper research, and we accept anything you find out about us, and they are the opposite of what people would imagine. They have been intimidating in the beginning to test me a bit. So when I came to California, they were like, Teresa, get in the car. And it was the first meeting, and I was like, sure, no problem, get in the car. And then they turned very, very positive. So they like to play up the intimidation, of course, but one should not be deterred from...